Radio Okapi. Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Ne considérez pas notre faiblesse, mais notre volonté de changement. Cette déclaration du président Félix Tshisekedi hier mardi au Africa Summit 2022. Ce rendez-vous économique annuel de Financial Times à Londres, en Grande-Bretagne, est organisé sous le thème « Investir en Afrique ». Les élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ. C'est le titre du deuxième rapport de la série « Mukalenga Wabantu », c'est-à-dire « Le chef du peuple ». Publié par le groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC. Les deux structures font l'état des lieux de préparatifs de scrutin prévus d'ici fin 2023. L'invité de ce journal est le chargé de la prise en charge de l'infertilité dans la ville de Matadi, au Congo central. Docteur Jean-Robert Bofendakini, gynécologue et obstétricien, nous parle de la ménopause, notamment ses manifestations et impact sur la santé de la femme. Voilà pour le titre, les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ne considérez pas notre faiblesse, mais notre volonté de changement. Cette déclaration est du président de la RDC hier mardi au Africa Summit 2022, le rendez-vous économique annuel de Financial Times à Londres, en Grande-Bretagne. Organisé sous le thème « Investir en Afrique », le sommet a réuni des délégations de haut niveau, de gouvernement, d'entreprises, des décideurs politiques et d'investisseurs. Félix Tshisekedi, qui s'est aussi exprimé en sa qualité de président de la CEAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence. Plus de détails avec vous, Alain Hirung.
Le président de la République a évoqué les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, une façon pour lui de donner des réponses à la thématique retenue à ce sommet. Concernant la présence du M23 à Bounagana, Félix-Antoine Tshisekedi a une fois de plus interpellé la communauté internationale qui tarde à peser de son poids pour régler cette crise sécuritaire. Le chef de l'État congolais a aussi défendu le processus en cours de l'attribution des blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre le dérèglement climatique. La RDC a-t-il soutenu et le pays solution au réchauffement climatique et tient à cette vocation du fait de sa biodiversité et de sa position comme un des poumons du monde. Par contre, ces populations ont le droit, comme cela se passe par exemple au Gabon, en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conditions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle nationale, ne l'interdit.
Et puis, les opérateurs économiques tanzaniens et congolais opérant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont réunis depuis lundi dernier à Lubumbashi. Cette rencontre de deux jours est placée sous le thème « Tirer parti des possibilités de collaboration en matière d'investissement, de commerce et des affaires dans ces nouvelles technologies ». Elle s'inscrit dans le cadre du premier forum d'investissement bilatéral entre les deux pays, dont les délégations sont conduites par leurs ministres respectifs des pétantiques. Quels bénéfices la RDC pourra-t-elle y tirer de cette rencontre? La réponse avec le ministre de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba, au micro de Jean Gandou.
Avec la Tanzanie, nous voulons mutualiser nos infrastructures pour justement faciliter le développement des télécommunications et des nouvelles technologies, parce que vous devez savoir que le socle de tout ça, ce sont les infrastructures. Et bien entendu, des bonnes infrastructures nous apportent une meilleure qualité de service à un prix réduit. Bon, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est vraiment une opportunité pour nous de saisir et de voir comment nous allons pouvoir développer les télécoms et les nouvelles technologies. Comme vous le savez très bien d'ailleurs, c'est un secteur qui est transversal, qui a énormément d'impact dans l'économie et le social du pays. Donc le Katanga, aussi bien le pays, profiterait dans le cadre du développement de ce secteur d'un boost en termes d'économie et de niveau social. Oui, bien sûr, par rapport aux affaires, il y a des sociétés tanzaniennes qui sont ici, des sociétés congolaises qui ont exposé. Ici, il s'agirait de faire une synergie entre eux, de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble. Parce que le but, c'est celui-là. C'est de se dire, l'union fait la force. Quand on est désunis, on est moins fort. Et donc, c'est de voir un peu quelles sont les opportunités qui pourraient nous permettre ensemble de créer cette cette synergie, de consolider pour nous renforcer davantage.
Dans l'entretemps, la situation sécuritaire dans la région de Beni impacte négativement les recettes au niveau de la douane de Kassindi, une des plus grandes de la région qui ouvre la RDC aux pays de l'Afrique de l'Est. Raison ayant motivé la direction générale des douanes et accises DGDA Beni, dans la suite de sa mission d'inspection dans la partie Grand Nord, d'initier une série de rencontres avec les opérateurs économiques ainsi que les membres de l'association des commissionnaires agréés en douane. C'est en vue d'envisager ensemble les voies de sortie. C'est ce qu'a déclaré le sous-directeur de la DGDA Beni à l'issue de l'échange qu'il a eu hier mardi à Boutembo avec les opérateurs économiques membres de la FEC Boutembo Lubero et ceux de l'association des commissionnaires ACAD. Guillaume Léo Makombi est au micro de Grévis Salomon.
Le secteur de Beni a enregistré au cours des trois derniers mois une contre-performance. Les recettes se sont situées autour de 50%, alors que le secteur a un potentiel économique et douanier important qui contraste avec ses réalisations. Nous sommes venus pour examiner ensemble quelles sont les mesures qui doivent être prises, qui ne vont pas gêner le climat des affaires, qui devront permettre à la douane d'approcher les assignations, pourquoi pas les atteindre. Mais il y a aussi ce contexte sécuritaire qui est volatile, qui entraîne à son tour une baisse significative de trafic. Si dans le secteur, on pouvait enregistrer entre 800 à 1000 conteneurs par mois, nous sommes tombés aujourd'hui autour de 200 conteneurs. Le tonnage manipulé a connu une baisse très sensible au point que ça a impacté le niveau des recettes. Nous espérons que la méthode pédagogique que nous avons utilisée a atteint ses objectifs. Nous allons maintenant voir dans les jours qui suivent l'évolution des chiffres des recettes. Nous allons leur accorder autant de facilités possibles, mais dans le cadre légal. Nous voulons que eux et nous puissions évoluer dans les limites de la loi. Nous compatissons au malheur de ceux qui ont perdu beaucoup de biens dans les incendies des véhicules et des cargaisons de marchandises.
Radio Okapi poursuit sa série sur la filière du coton, une culture qui constitue la principale source de revenus monétaires dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. La RDC fut le premier pays producteur et exportateur du coton en Afrique francophone. Le document de la composante agricole du programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction indique qu'en 1959, la RDC a produit 180 000 tonnes de coton graines avec près de 800 000 agriculteurs encadrés dans les provinces orientales de l'Équateur, du Maniema, du Katanga, des deux Kassai dans leurs anciennes configurations et du Sud Kivu. Comment les sociétés cotonnières avaient-elles réussi à faire de la RDC le premier pays producteur et exportateur du coton? Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
Le rapport de la composante agricole du programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et reconstruction indique qu'au cours des 40 dernières années, d'importants investissements ont été faits dans la filière coton à travers la construction d'unités de transformation du coton graine, du coton fibre et de la graine du coton. De ce fait, la filière a été jadis l'un des principaux moteurs de développement du monde rural par sa couverture nationale, la mise en place du système d'encadrement agricole, l'entretien des routes rurales et des dessertes agricoles, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures rurales à travers le pays, dont notamment les hôpitaux et les écoles. Cette filière a en plus joué un rôle dans la stabilisation car elle freinait l'exode rural. La production record de 1959, qui avec 180 000 tonnes a mis la RDC à la première place africaine, cette production a connu un déclin spectaculaire, passant de 180 000 tonnes en 1959 avec 800 000 producteurs de 17 000 tonnes en 1965, des 11 000 tonnes en 1989 et des 800 tonnes au cours de la campagne de 2006. La chute de la production du coton en RDC a fait que ce produit disparaisse du paysage agricole du pays car les producteurs se sont désintéressés du coton en faveur de l'exploitation de minerais.
Les élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ. Tel est le titre du deuxième rapport de la série Mukalenga Wabantu, Entendez le chef du peuple, publié par le groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC. Ces deux structures font l'état des lieux et des préparatifs de scrutin prévus d'ici fin 2023. À 14 mois des prochaines séances électorales, le calendrier électoral se fait toujours entendre. Entre-temps, la méfiance envers les animateurs de la CENI demeure et les renouvellements controversés des membres de la Cour constitutionnelle, dernier verrou du processus électoral, renforcent davantage le déficit de confiance. Les défis de transparence et de crédibilité pourront-ils être relevés lors de ces premières élections sous Félix Tshisekedi? Se demandent Jacques et Ebouteli. D'autres détails avec vous, Richard Junior Kamunga.
Les défis de confiance envers la CENI et la Cour constitutionnelle, les cadres de concertation exclusifs, les flous autour des circonscriptions électorales, les options techniques dérogatoires aux lois invoquées et surtout le manque de transparence dans la conduite de certaines opérations importantes comme celle de la cartographie des centres d'inscription, au cire des violentes protestations des acteurs sociopolitiques. La CENI devait garder à l'esprit que l'enjeu de ce processus électoral réside dans sa transparence et son intégrité. Alerte Itiel Batumike, chercheur principal au pilier politique à Ebiteli. D'autant que l'actuel processus électoral semble avoir pris du retard à l'allumage, le spectre du glissement du calendrier électoral pèse sur l'obligation de tenir les scrutins dans les délais constitutionnels. Le pays se retrouve de nouveau entre le risque d'organiser des élections bâclées aux éventuels résultats contesté et celui d'un dialogue politique et ses arrangements autour du partage des responsabilités au sein des institutions, note le rapport.
Et pour tenter de sauver ce processus électoral mal parti, ce rapport diagnostique préconise que la quête de la confiance dans les processus électoraux redevienne la priorité des parties prenantes, la CENI y compris. Dans la province du Maniema, après que le Conseil d'État a demandé la surséance de l'exécution du calendrier convoquant la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Maniema, la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema demande à la population de rester calme. Gertrude Kitembompala a lancé cet appel hier mardi après que la CENI a notifié le bureau de l'Assemblée provinciale de cette décision. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Moi, je demande à la population de Maniema de rester calme. Vraiment de rester calme. Nous tous, nous sommes suspendus à cette audience-là que nous croyons doit avoir lieu cette semaine-ci. Puisque, en réalité, quand il y a une requête de référé suspension, le fond doit être traité dans les 8 jours selon la loi. Donc, nous croyons que l'audience aura lieu cette semaine et que cette semaine, même, la CENI va user d'une certaine célérité pour communiquer à l'Assemblée provinciale l'arrêt qui sera pris par cette audience-là et que la population reste calme. Nous voyons parfois des gens qui sont, nous pourrions dire, comme la petite marche qui a eu hier, où on dit on soutient quoi? On soutient la justice. C'est vrai, il faut soutenir la justice, mais il faut aussi que la justice soit rendue comme il faut. C'est une requête en référé suspension. C'est en référé suspension, ça veut dire que ça n'arrête pas, c'est pas une décision qui reste permanente. C'est une suspension qui, à un certain moment donné, après 8 jours, devra être levée, que la requête soit traitée dans les fonds et qu'en fait, on puisse faire sortir un arrêt qui sera appliqué.
À Kananga, une quarantaine de journalistes ont été outillés hier mardi sur la communication efficace dans la prévention et abus sexuels. Cette activité a été organisée par l'ONG Enfants à venir avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population pour améliorer la communication et obtenir l'engagement des médias dans la sensibilisation sur ces pratiques. À en croire les coordonnateurs de la structure, les professionnels des médias jouent un rôle important dans la transmission de messages aux communautés pour dénoncer les abus sexuels. Pierre Bibombé est au micro de François Kadima.
Le média constitue un canal par excellence pour apporter l'information à la communauté. Les journalistes jouent un grand rôle, non négligeable. Raison pour laquelle nous avons voulu réunir les journalistes en ce jour pour les capacités, afin d'améliorer leur communication et qu'elle soit une communication efficace basée sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Les journalistes doivent en fait transmettre le message clé de sensibilisation au sein de la communauté. C'est toute cette communauté qui est bénéficiaire de l'aide humanitaire, qui est bénéficiaire, n'est-ce pas, des différents appuis de partenaires. Ce message clé-là consiste à amener toute personne bénéficiaire d'une assistance humanitaire à comprendre que cette assistance ne peut être changée à des faveurs sexuelles ou autres avantages. Et en cas d'incident lié à l'exploitation abus sexuel, les journalistes peuvent apporter, n'est-ce pas, le message. Par exemple, vulgariser le numéro vert interagence 495555 pour que toute personne, membre de la communauté, puisse dénoncer.
En bref, en Ituri, la réserve de faune à Okapi et RFO est confrontée à plusieurs défis dont l'activisme des groupes armés et l'exploitation illicite des minéraux pour la relance des activités de capture de cette espèce protégée. C'est le responsable des projets de conservation de l'Okapi à Ipoulou qui l'a dit hier mardi à l'occasion de la journée de l'animal Okapi. Plusieurs activités sont organisées pour célébrer cette journée dans le territoire de Mambasa en vue de montrer aux communautés locales l'importance de cet animal rare.
Actualité internationale.
Centrafrique, polémique après la mise à la retraite de la présidente de la Cour constitutionnelle. Apparemment, les autorités centrafricaines cherchent à se débarrasser de la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darland. Le gouvernement centrafricain a acté la mise à la retraite de la fonction publique de la professeure de droit au 31 décembre et compte ainsi par ricochet la remplacer à la tête de l'institution. Celle-ci vient de rétorquer le projet d'écriture d'une nouvelle constitution après avoir raboté celui de la cryptomanie nationale. Les Sangoukouins. Madagascar, le ministre des Affaires étrangères limogé après son vote sur le conflit russo-ukrainien. Richard Randriamandrato a été limogé hier mardi sur décision du président Rajoelina. Il lui est reproché d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution de l'ONU condamnant les annexions illégales de la Russie en Ukraine, alors que Madagascar a toujours revendiqué faire partie des pays non alignés. Le ministre limogé avait été nommé en mars dernier à la tête du ministère des Affaires étrangères malgache.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de la prise en charge de l'infertilité dans la ville de Matadi au Congo central. Docteur Jean-Robert Bofendakini, gynécologue et obstétricien, nous parle de la ménopause, notamment ses manifestations et impact sur la santé de la femme. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause, célébrée le 18 octobre sous le thème « Cognition et humeur ». Docteur Jean-Robert Bofendakini s'entretient avec Nana Pluriche Mambou.
Docteur Jean-Robert Bofendakini, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous savez, docteur, des milliers de femmes à travers le monde arrivent chaque jour au stade vital de la ménopause, mais bon nombre d'entre elles ne comprennent pas bien ce qu'est la ménopause. Comment pouvez-vous la définir et quelles en sont les conséquences et les impacts sur la santé de la femme?
La ménopause, c'est une situation physiologique, c'est-à-dire tout à fait normale chez la femme, à un certain âge, qui est caractérisée cliniquement par la disparition des règles. Mais cette disparition des règles est liée à la fin de l'activité des ovaires. Les ovaires sont des organes féminins qui sont responsables de la production, mais aussi de l'œuf qui est impliqué dans la conception. Donc, la ménopause correspond à la fin de la vie reproductive de la femme. L'âge de la ménopause varie, mais on retient habituellement que la ménopause normale physiologique survient à partir de 40 ans, lorsque tous les éléments cliniques et biologiques sont réunis en faveur de la ménopause. Lorsqu'il n'y a pas une autre cause qui explique la disparition des règles, on peut dire que la femme est entrée en ménopause. Et avant 40 ans, c'est en ce moment-là qu'on parle de ménopause précoce. Alors, comme c'est une situation physiologique, normalement, la ménopause ne devrait pas poser de problème. Mais carence liée à l'absence des estrogènes, des hormones féminines, donne lieu à des manifestations cliniques qui sont plus ou moins tolérées par la femme. Je voudrais pas parler en termes de symptômes, parce que ça sous-entendrait que c'est une maladie comme telle. Non, c'est une situation physiologique, mais qui s'accompagne d'un faisceau de signes cliniques qui sont plus ou moins tolérés par certaines femmes. Le premier, c'est la disparition des règles. Vous savez que les règles chez la femme, c'est un signe de féminité. Et sur le plan psychologique, lorsque les règles partent, il y a un déséquilibre psychologique déjà chez la femme. Mais aussi, la carence en hormones implique beaucoup d'organes, notamment le système cardiovasculaire. Il y a aussi des problèmes d'irritabilité. La femme ménopausée a des troubles d'humeur, des troubles de cognition liés aussi à l'absence des hormones. Il y a un autre faisceau d'éléments liés à des bouffées de chaleur. C'est d'ailleurs le signe le plus fréquent parce qu'il représente environ 3/4 des femmes qui ont ces signes-là. Et il y a des troubles urinaires, il y a des troubles de libido. Les bouffées de chaleur, ce sont des épisodes de chaleur où la femme peut même aller jusqu'à faire une transpiration profuse. Quand ça survient la nuit, ça peut même altérer la qualité du sommeil, d'une part. D'autre part, elle peut aussi avoir des problèmes en relation avec les rapports sexuels. Par atrophie de la muqueuse vaginale, les rapports sexuels deviennent douloureux parce que le vagin n'est pas très bien lubrifié. Alors, il faut noter que ces signes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont plus ou moins bien vécus par les femmes. C'est-à-dire, il y en a qui auront plus tel signe et pas tel autre, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des femmes qui passent leur période de ménopause sans plainte, quoi.
Docteur, le thème de cette année est cognition et humeur. Quelle connotation donnez-vous à ce thème?
Vous savez que la ménopause, dans notre environnement ici, n'est pas très, très, très bien connue. Et parfois, les femmes passent sous silence, n'est-ce pas, certains de leurs inconforts. Alors, ces journées-là sont très, très importantes pour sensibiliser les dames. D'une part, parce que lorsqu'elles connaissent c'est que c'est que la ménopause et quelle est la cohorte d'événements qui accompagne la ménopause, elles vivent plus ou moins bien cette transition physiologique. D'autre part, elles servent aussi à sensibiliser celles qui ne peuvent pas supporter ces signes-là. Parfois, ça devient vraiment invalidant. Des insomnies, des troubles de comportement qui se manifestent par des relations sociales.
Il existe-t-il un traitement pouvant corriger les troubles fonctionnels de la ménopause ?
Oui, les troubles fonctionnels peuvent être corrigés. Les traitements, il y en a une panoplie. Mais comme je l'expliquais tantôt, déjà, comprendre ce qui se passe peut améliorer la résilience, la compréhension, la tolérance des femmes impliquées. Mais il existe des traitements, notamment le traitement de la substitution de l'hormone qui manque. C'est-à-dire, si le problème est lié à la disparition d'une hormone, on peut le remplacer si vraiment les troubles sont importants. Mais entre les deux, c'est-à-dire l'expectative et le traitement hormonal, il existe d'autres prises en charge médicamenteuses comme non médicamenteuses de ces troubles-là.
Et pour finir, comment la RDC peut améliorer la qualité de vie des femmes en phase de ménopause ?
Améliorer, c'est améliorer les conditions de vie. Déjà, améliorer les conditions sanitaires, les conditions d'alimentation, mais aussi améliorer la prise en charge.
Docteur, je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le chargé de la prise en charge de l'infertilité dans la ville de Matadi au Congo central, qui s'entretenait avec Nana Plurish Mambou. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.